parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 21h, 23h, Confidence. L'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir, chers amis, et bienvenue sur Beurre FM. Il est exactement 21h et 2 petites minutes 59 secondes. Vous voyez, je vous dis tout, on ne vous cache rien. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Quelle joie, quel bonheur de vous retrouver en ce vendredi 3 février de l'année 2023. Voilà, nous sommes vendredi de la fin de la semaine, hein, c'est la fin de la semaine. Donc ça augure quoi? Ben, week-end, voilà, bientôt c'est le week-end pour vous. Pas pour tout le monde, hein, parce que beaucoup travaillent le samedi et le dimanche aussi. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien, sinon ben, vous allez aller mieux, vous allez voir. Avant la fin de l'émission, avant 23h, tout le monde ira mieux. Alors, je reprends mon souffle. Voilà, voilà, ma petite bouteille d'eau, j'ai tout ce qu'il faut. Hein, vous voyez, on joue vraiment la transparence. Alors, Anthony réalise cette émission et il vous répond au standard. Et là, en ce moment, il est en train de vous répondre. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère vous recevoir nombreuses et nombreux pour terminer la semaine en beauté avec vous. Mais avant de vous donner la parole pour un sujet, ma foi, que je vous ai concocté, que je vais vous proposer, vous en ferez ce que vous voudrez, un sujet un petit peu philosophique, on va dire. Vous savez que c'est un domaine que je chéris, on va dire, qui m'est très précieux et j'aime le partager avec vous. Voilà, donc on va peut-être, c'est vous qui faites l'émission, bien sûr, c'est vous qui faites la radio, chers amis, sans vous, on ne serait pas là. Donc vous choisissez vos thèmes, vous pouvez parler de ce que vous voulez. Vous n'êtes pas tenu à parler de ce que je vous propose. Hein. Non, moi, c'est juste une suggestion. Hein. Maintenant, vous en ferez ce que vous voudrez. Voilà. Venez vider votre cœur, par exemple, un cœur trop plein. Là, c'est week-end, hein, pour passer un week-end un peu léger, hein, on va dire. D'accord? Bon. Tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement. L'Aïdjiblikoum, Chouin Charlin, ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes incarcérées ainsi qu'à vos familles. Et on n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir, vous qui travaillez de nuit. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens sans distinction aucune. Voilà, allez, on vous attend, dépêchez-vous, remplissez-moi ce standard. Parce que souvent, eh bien, vous plaignez parce que, il n'y a plus de place au standard, donc ça sonne dans le vide. Ou tout simplement, vous attendez trop longtemps. Mais là, en l'occurrence, en début d'émission, vous avez toute la possibilité de pouvoir vous exprimer librement, tranquillement, prenant votre temps. D'accord? Donc, je vous attends, allez-y. Le sujet voilà, que je vous propose, eh bien, ce soir, chers amis, c'est nous vivons dans un monde où il est de plus en plus difficile d'être soi-même. Tout être humain est unique, pourtant. La société a besoin de mettre les personnes dans des cases et dans des groupes pour mieux les identifier. Ce cycle infernal, c'est ce qu'on appelle la pression sociale. Derrière la pression sociale se cache la peur du rejet. Pour être lui-même, l'individu doit surmonter une pression sociale organisée sur des normes dominantes. La société, le milieu du travail, la famille, l'entourage veulent que nous soyons dociles et conformistes, que nous rentrions dans le rang avec des règles et des tabous pour assurer le bon fonctionnement de la société. Mais ils participent aussi à nous enfermer dans des carcans. Ils veulent nous faire rentrer dans des cases, des freins à notre épanouissement. La pression est grande, car à partir du moment où l'on se sent rejeté par notre entourage, notre instinct de survie nous envoie des signaux d'alarme. La peur du rejet qui tente de nous faire rentrer dans le rang, elle représente un défi à surmonter pour continuer d'être soi-même et rester fidèle à sa philosophie de vie. On est tous sous l'emprise d'une société qui définit nos passions, nos goûts, nos rêves et par conséquent nos vies. Combien de gens s'en vont avec le regret d'avoir vécu une vie qui n'était pas la leur? Être soi-même est sans doute l'une des plus grandes épreuves de courage que puisse faire une personne. Car il faut du courage pour affronter les jugements de ceux qui pensent différemment. Voilà notre sujet de ce soir, chers amis. Vous savez que vraiment c'est un sujet qui me touche énormément et qui touche énormément de personnes. qui sont à l'écoute ce soir, je suis sûre que parmi vous, tout le monde y songe, ose sauter le pas et dire, après tout, zut, voilà, pour rester poli. Voilà, je vais vivre ma vie telle que je l'entends et je vais vivre pour moi et je vais être moi-même. Voilà. C'est très compliqué parce que je parlais de carcan. Et oui, on est dedans. Et tout à l'heure, je vous parlais de ceux qui partent de ce monde sans avoir l'impression d'avoir vécu leur vie. C'est triste. Ben oui, les cimetières sont occupés par beaucoup qui sont partis avant nous et qui n'ont pas vécu leur vie. Et peut-être qu'à la dernière seconde de leur vie, ils y ont songé, mais c'était trop tard. Voilà. Donc peut-être qu'il faut y songer un petit peu avant, n'est-ce pas ? Voilà. Alors quand on nous dit que tout être humain est unique, pourtant la société, elle nous montre le contraire. Quand je dis la société, écoutez, parce que chacun renvoie la faute à la société, toujours. Parce que la société, c'est une chose que... Voilà, c'est un grand sac fourre-tout, on y met tout ce qu'on veut, toutes nos frustrations, etc. Mais la société, c'est nous, en fait. Voilà, c'est votre entourage. Et oui, la société, c'est qui ? C'est nos amis, c'est l'entourage, c'est nos proches, c'est nos familles aussi. Hein. Voilà. Est-ce qu'on est obligé de tenir compte de la vie des autres avant de vivre sa vie et avant de faire ses choix, ses propres choix, individuellement ? Ben non. Donc, je pense que très peu sont libres de leurs choix, ne sont pas libres de leur libre arbitre, si je puis dire. Je sais pas si elle peut se construire comme ça la phrase, mais enfin, en tous les cas, vous comprenez. Voilà. Donc, oui, il est de plus en plus difficile de vivre d'être soi-même, dans une société où tout nous pousse à rentrer dans une case. Voilà. Pour faire plaisir aux autres. Voilà, je fais comme les autres. Les autres croient comme ça ? Je vais dire que je crois comme eux. Les autres, ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Dites-moi. Parce que les autres l'ont décidé ? Non, si ça vous fait plaisir. Et alors, à partir du moment où vous ne faites de mal à personne, vous faites plaisir. C'est le jugement des autres, en fait, qui est plus important que votre propre vie. Non. Donnez un coup de pied à tout ça. Et si j'en parle, c'est parce que moi-même je l'ai fait. C'est un travail. C'est pas facile parce que il y a la peur du rejet, il y a la peur d'être de ne plus faire partie du clan, etc., d'être pointé du doigt. C'est comme la chanson de Pierre Vassilu qui dit qui c'est celui-là. Mais qu'est-ce qu'il veut celui-là ? Il est pas normal celui-là. Il est pas comme les autres. Oui. Voilà. Donc soyons celui-là et ne soyons pas les autres. Moi j'ai décidé un jour. C'était dur. C'était pas gagné. Mais je peux vous assurer que on y gagne. On y gagne en sérénité et en fierté d'avoir réussi à être soi-même et pas plaire aux autres. Voilà. Croire ce qu'on a envie de croire. Vivre comme on a envie. C'est compliqué de dire, par exemple, quand vous m'entendez des fois, quand on me pose des questions sur la religion, par exemple, Voilà. Parce qu'on n'a pas le choix sur la religion, quoi qu'on dise. Oui. Parce que on est dans un groupe de gens qui croient comme ça, donc on y va. Oui. On n'a pas le choix. Peu osent dire tout haut ce qu'à l'intérieur, au fond d'eux, pensent réellement. C'est compliqué. Souvent, vous m'entendez, hein. Moi, je suis transparente là-dessus. Quand on me pose la question, hier, il y a un auditeur, ou avant-hier, je sais plus, qui me dit, mais toi, Vanessa, tu es musulmane. Quand on vous dit ça, ça veut dire ça y est. C'est-à-dire qu'il y a un package. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est comme vous allez au restaurant, il y a un menu. Vous n'avez pas le droit de choisir un plat différent des personnes qui sont à votre table, puisque tout le monde prend le menu. Voilà. Alors, on dit au serveur, le menu, s'il vous plaît. Tout le monde prend le menu. Alors, vous dites, non, moi, je prends pas le menu. Moi, je vais prendre un plat. Je vais peut-être pas prendre le dessert. Je vais prendre pas le même plat que les autres. Voilà. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc quand la personne m'a posé la question, tu es musulmane ? Oui, ok. Je ne crois pas comme les autres, comme d'autres. Je crois différemment. Voilà, tout simplement. Et je pratique différemment et je vis différemment. J'en suis fière. Voilà, d'être sortie du carcan. 01 53 48 3000, on a une petite pause, c'est ça ? Allez, on marque une courte pause et on revient avec vos appels à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000 et on a Naïm qui nous appelle de Toulouse. Alors on va aller faire un petit tour à Toulouse, tiens, la ville rose. Bonsoir oui, Naïm.
Oui, bonsoir, comment ça va?
Ben ça va bien et toi, tu vas bien?
Ben ça va, alhamdoulilah, ça va très très bien.
Eh ben parfait.
Alors, c'est un sujet qui me parle beaucoup.
Oh, génial.
Ça fait un moment que j'essaie de vous appeler.
Oui.
Avec ma femme, on écoute beaucoup et on n'arrive pas souvent. Bon, là, ce soir, c'est l'occasion parce que c'est un sujet qui est super intéressant.
Mm-hmm.
En fait, c'est un sujet aussi, alors, je ne sais pas si je peux dire ça, mais...
Oui. Essaye de bouger un petit peu, Naïm, parce que je crois qu'on a un petit souci de...
Là, vous entendez mieux?
Oui, mais c'est, je ne sais pas, ta voix parle là de temps en temps, oui. Il n'y a pas de haut-parleur, hein, n'est-ce pas?
Pas du tout, pas de haut-parleur, pas de radio, rien.
D'accord, de temps en temps, tu as la voix qui part, je ne sais pas ce qui se passe.
D'accord, alors je vais être plus je vais parler plus clairement.
Ah bah là, c'est bon, donc, là, si tu ne bouges pas, c'est bon. Alors, donc...
En fait, c'est propre à notre culture. Que
c'est dommage, hein, parce que franchement...
La déconstruction, en fait, c'est apprendre à vivre différemment que ce que l'on nous imposait.
Mmh.
Voilà. Et ça, non seulement la société veut nous imposer un diktat, un choix, enfin, un mode de vie, c'est-à-dire avoir une bagnole, rentrer dans telle et telle case, mais la culture en rajoute aussi.
Mmh.
Parce qu'on voit évoluer dans la société, des jeunes qui évoluent, qui sont étudiants, mais qui en aparté ont leur vie, leur culture, qui les freine dans ce qu'ils veulent faire dans la vie.
Mmh.
Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et ça, c'est un travail compliqué à faire sur soi,
mmh.
via une thérapie ou via un travail à faire sur soi. Hein.
Je ne sais pas si c'est une thérapie ou c'est autre chose.
À déculpabiliser, en fait.
Mmh. Déculpabiliser. Oui, oui. Voilà,
déculpabiliser. C'est ça.
Ouais.
Le fait d'avoir un avis...
Prendre conscience.
Voilà, le fait d'avoir un avis sur la religion, moi je parle, j'ai 41 ans,
oui.
Ne fait pas de nous de mauvais musulmans, mais d'avoir un point de vue.
Oui.
C'est ça aussi,
oui.
C'est important. Ne pas prendre tout au pied de la lettre, mais avec philosophie.
Mmh.
Le fait de vivre notre vie comme on l'entend ne fait pas de nous de mauvais enfants.
De mauvaises personnes, on va dire. C'est même pas une question d'être tout mauvais musulman ou mauvais chrétien ou j'en sais rien. De mauvaises tout personnes. L'important, c'est d'être une bonne personne avant tout.
Bien sûr. Mmh. Et avoir un bon fond. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué que de ne pas rentrer, de sortir du rang, on va dire un peu.
C'est compliqué, oui, mais ça vaut la peine. Hein, tu penses quoi, Naïm? Alors, Naïm, il a vraiment un problème avec son téléphone. Naïm...
Vous m'entendez?
Oui, alors, pas vraiment. Pas vraiment.
Ouais.
Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais de temps en temps, tu vois, on ne t'entend plus.
Ça coupe.
Ouais.
Et là, par exemple? Alors,
bah, j'entends... oui, mais ça coupe.
Ouais, c'est dommage.
On te le dit, ça, déjà, ou c'est juste avec nous?
Ah non.
Non?
De Toulouse. Je peux pas être mieux. Niveau réseau, je peux pas être mieux.
Ah ouais, donc il y a un truc.
Là, vous m'entendez?
Là, je t'entends, hein, je t'entends, mais je te dis de temps en temps, t'as la voix qui part, mais bon, j'essaye de
D'accord.
comprendre. En tout cas, le sens, je le comprends bien.
Ouais.
Oui.
Mais c'est un très bon sujet, parce que c'est un sujet qui parle à beaucoup de personnes, je trouve. Hein.
Je t'entends là. Et qui remet, pardon parce que je toussais, et qui remet en question beaucoup de choses. Parce que ce sujet-là, en fait, c'est quoi le but de ce genre de sujet qui frôle un petit peu, qui touche à la philosophie? La philosophie, c'est des questions ouvertes et qui poussent à la réflexion propre et à faire appel à son bon sens.
C'est ça.
C'est ça, n'est-ce pas?
C'est ça.
Alors donc, quand on prend tout pour content, c'est-à-dire on nous a dit ça, voilà. C'est comme ça, tu ne réfléchis pas, tu ne réfléchis. C'est-à-dire que on ne te donne pas l'occasion, la possibilité, pire encore, que dis-je?
De s'affirmer.
De penser par toi-même. C'est-à-dire voilà. que tu t'interdis, on t'interdit la pensée propre, la pensée libre. On te dit non, tu n'as pas le droit de penser par toi-même. Alors que, il est difficile de ne pas penser par soi-même. Je veux dire, On peut pas. D'ailleurs, on peut pas ne pas penser. Mais par contre, quand on nous empêche de penser par nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va faire? On va puiser dans le stock de tout ce qu'on nous a appris et on va tourner en rond. Je pense que c'est. Enfin, ça va être dur ce que je vais dire, mais moi, à mon niveau, à moi, je peux pas le faire parce que ce serait m'abêtir. Tu comprends? Je trouverais ça abêtissant d'aller puiser dans ce que les autres ont voulu m'inculquer. Tu vois? Vraiment.
C'est ça. C'est ça.
Voilà, et ça, c'est un refus, oui.
Ça, en fait, il y a beaucoup de personnes qui, arrivées à l'âge de 45, 50 ans, qui souvent se remettent en question et remettent leur vie en question et souvent regrettent de ne pas avoir fait plus tôt parce que c'est quand même un travail difficile que de refuser de rentrer, enfin, pas rentrer dans le rang, mais je veux dire...
De sortir du rang.
Voilà,
c'est encore pire.
Et vivre sa propre vie. Ses propres choix.
Et oui.
C'est pas donné.
Non.
C'est un fort travail en soi. Ouais. Je pense que quand je parle de thérapie, c'est très bien parce que
c'est vrai.
Ça nous permet de déculpabiliser, de déconstruire le schéma, le schéma qu'on a familial. C'est-à-dire que on nous apprend en thérapie, on n'apprend pas à quelqu'un à ne pas aimer ses parents, mais on apprend à les aimer différemment.
Voilà.
Voilà. À les aimer selon ce que nous on ressent et selon les émotions. Enfin, c'est un peu complexe, mais c'est vrai que c'est super intéressant. C'est...
Oui, et puis que ce soit les parents, les proches, peu importe la société qui nous entoure, eh bien, de s'affirmer, tu parlais de s'affirmer tout à l'heure, et tu as très bien raison, eh bien, et que les autres respectent ton choix. Comme toi, tu respectes le libre arbitre, la façon de penser des autres, tu respectes. Donc, les autres ne respectent pas ça. Donc, on te pousse vraiment à penser différemment. Voilà. On a plein d'exemples comme ça d'ailleurs. Plein d'exemples où les gens se sentent obligés de s'octroyer le droit de te reprendre. Alors aujourd'hui,
c'est ça.
On a créé
Comme si c'était une évidence.
Oui, voilà. Alors
comme
donc
si quand... ça coulait de source, mais ça ne coule pas de source. Peut-être. Alors il y a un proverbe qui dit tu prêches un convaincu ou alors. Chacun prêche pour sa paroisse.
Oui.
C'est exactement ça.
Et
parce que la personne qui va vous dire ah non, mais c'est comme ça. Ah non, mais tu prêches pas convaincu. Et puis tu prêches pour ta paroisse à toi.
Et aujourd'hui, on a une notion qui est très à la mode, c'est le rappel. Parce que ça, c'est la carte Joker qu'on sort comme ça. Quand les gens te reprennent, alors que tu dis écoute, moi, je respecte ta façon de voir les choses, c'est très bien, mais on est dans la discussion, dans l'échange, respecte mon point de vue. Alors les gens te disent. Alors, ils te sortent le rappel. Tu dis non, c'est un rappel. Mais qui es-tu? De quel droit tu prends alors, pour venir alors, me faire que, ce que tu appelles le rappel?
C'est vrai que c'est devenu hyper tendance. Mais alors, on dit toujours que le rappel profite aux croyants, c'est vrai. Mais ce qu'il y a, c'est bon déjà faire un rappel avec bienveillance et surtout le faire correctement. Je pense que il y a des gens qui veulent le faire par bonne intention, mais qui sont très maladroits. Parce que
ça dépend de ce qu'on entend par un rappel. Un rappel, on le fait à des enfants.
Voilà, ce qui est une vérité pour lui n'est pas une vérité pour toi.
Exactement. C'est et puis rappeler à l'ordre des enfants, des adolescents, des jeunes, pour pas qu'ils récidivent quand ils font des bêtises. Tu vois, ça s'appelle un rappel. Ne recommence pas, ne fais pas de mal à autrui, ne fais pas ça, ne fais pas de bêtises, ne fais pas ça. Oui, ok. Bon, on peut appeler ça un rappel ou tout ce qu'on veut, des leçons de morale. Et de toute façon, on n'a pas besoin d'être croyant dans une religion, quelle qu'elle soit, pour savoir que causer du tort à autrui, faire du mal, voler, etc., ou tuer, ou j'en sais rien, que c'est pas bien. Je veux dire, voilà. Mais rappeler à l'ordre un enfant, un jeune, éduquer son enfant, mais pour une vie sociale, pour qu'il puisse évoluer bien dans la société, c'est une chose. Mais lui mettre des idées dans la tête... qui ne sont peut-être pas de son propre chef, ne pas le laisser lui aller chercher, c'est triste. Parce que c'est bien de chercher par soi-même, de chercher sa voie.
C'est vrai. Mais c'est bien de chercher par soi-même. Et bon, moi je suis musulman, mais c'est très conseillé d'ailleurs de chercher le savoir. Le savoir, c'est quelque chose de super important, d'avoir une culture. La majorité nos parents, ne savaient peut-être pas lire ni écrire, ils n'avaient pas, ils savaient pas comment aller chercher l'info et s'instruire. C'est vrai que maintenant tout est à notre portée, on a Internet, on a les bouquins, donc on n'a pas d'excuse, on doit s'instruire et voir ailleurs, voir ce qui se passe aussi ailleurs. C'est super important pour avoir une ouverture d'esprit.
Une ouverture d'esprit. Mais parfois, certains utilisent ce pseudo-savoir, entre guillemets, parce qu'ils savent lire, pour en faire vraiment quelque chose qui ressemble plus à une forme de dictature. Parce qu'ils ils te disent, voilà, tu vois, c'est comme ça. Moi, je sais. Moi, j'ai lu comme ça. Ils ont une lecture propre à eux. Ils te disent, c'est comme ça. Tu dois penser comme ça et pas autrement. Bah, tu dis, moi, je n'ai peut-être pas la même lecture. On lit tous la même chose, mais on a tous... Tu sais, on peut lire, sans parler de religion, hein. On peut lire, par exemple, on regarde un film à la télévision, lire un bouquin, eh bien, être plusieurs personnes à le lire et avoir, disons, des...
Des visions différentes.
Voilà, exactement. Ben oui.
Et pas le même ressenti.
Voilà, c'est vrai, c'est ça.
Bien sûr, c'est tout à fait... Ben, ça arrive souvent dans les bouquins. Quand on lit des bouquins, on n'a pas la même approche.
C'est vrai.
Le livre nous parle différemment à chacun.
Ouais,
donc,
oui.
on a C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on reconnaît les très grands auteurs. Oui. C'est-à-dire qu'ils arrivent à toucher tout le monde et différemment, en fait. On n'a pas la même approche. Certains, ça va être plus émotionnel. D'autres, ça va leur parler, ça leur rappelle leur histoire. Enfin, c'est assez intéressant, quoi. C'est vrai que c'est la culture et la lecture. Pour moi, je trouve que c'est super important dans la vie.
Ah oui, mais mon Dieu, c'est primordial.
La lecture, ça rend moins bête, hein, déjà, de un.
Ah ben oui.
Et de deux, ça améliore l'addiction. Et puis, c'est super, quoi, de lire.
Bien sûr, c'est enrichissant. C'est
pour tout, hein, et je parle de tout. Hein,
ah oui.
Je parle des romans, des bouquins de religion, des bouquins de société, de tout. Hein,
de bien tout. Sûr, bien sûr,
et
bien sûr.
En fait, c'est de lire et de s'instruire. Pour ne pas, justement... gober tout ce qu'on dit et comme argent comptant et répéter bêtement et sans savoir le fond.
Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et en plus, comment dire, la lecture, eh bien, c'est une thérapie, l'écriture, la lecture. C'est une des meilleures thérapies qui puissent exister, vraiment. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien, quand on traverse des moments difficiles, des deuils, des... La vie est faite ainsi, hein. Voilà, on va pas refaire le monde, il est comme ça. Hein. Voilà. Eh bien, prendre un bon livre, quand je dis un bon livre, un livre qui vous parle, parce qu'on peut pas prendre un livre comme ça, mais il faut que le livre, le titre, le contenu, tout ça, enfin, le livre vous parle. Une fois que vous êtes dans cette lecture, eh bien, vous vous arrachez, je dirais, à votre tristesse, quelque part.
Le quotidien, oui, hein, on est plongé dedans.
Donc voilà, ça vous empêche de tomber dans la déprime. Et ça vous plonge dans un monde ailleurs, différent. On est avec les personnages, on s'identifie à l'un des personnages. Et on a hâte de poursuivre la lecture, d'aller. Moi, je sais que depuis mon plus jeune âge, ça m'a fait un bien fou parce que comme tout le monde, quand on est jeune, eh bien, on traverse des moments difficiles. Pourquoi ? Parce que tout simplement, y a tout qui change. Hein. Quand voilà, y a la petite enfance, l'enfance, la préadolescence, on se transforme, on découvre le monde. Puis il y a des choses qui nous choquent, etc. Enfin, on est plus ou moins, on est très sensible à ces âges. Donc, ce qui fait que il y a tout un chamboulement intérieur. Eh bien, les livres ont été mes meilleurs amis. C'est ma famille, hein, les livres. Hein. Je les considère comme ma famille. Et Dieu merci que les livres existent. Parce qu'un monde sans livres, sans lecture...
On dit souvent que pour comprendre une société, pour voir l'état d'une société, il faut voir l'état de leur bibliothèque.
Ah oui, ben oui,
c'est ça. Par contre, c'est vrai, il y a des endroits où il y a... C'est vrai, hein.
Ah oui.
Pour voir l'état d'une société, il suffit de voir l'état de leur bibliothèque.
Bravo, bravo ce que tu dis.
Et ça, c'est... Voilà, c'est... Mm-hmm.
C'est vrai. Et nous avons cette chance ici, les livres sont partout autour de nous. Et de tout temps, hein, ils sont accessibles.
Il y a des livres partout, il y a des livres sur les téléphones, il y a des livres sur partout. Les iPads, on peut tout faire maintenant.
Et moi, je parle aux jeunes qui sont, tu sais, qui sont incarcérés, qui ont fait, je ne parle pas de ceux qui ont commis des monstruosités, attention, hein, quand je passe voilà, mes petites pensées du soir, personne incarcérée, bien entendu, très honnêtement, je ne pense pas à ceux qui ont commis des crimes de sang, qui ont fait des choses abominables, des monstruosités. Attention, hein, je fais la part des choses. Hein. Je parle aux petits jeunes qui ont fait des bêtises et ils peuvent se rattraper. Moi, je parle avec eux et je leur dis encore une fois ce soir et souvent, bon, vous avez fait des bêtises ou vous avez fait des choses plus ou moins voilà, pardonnables, mais vous êtes en train de payer ce que vous avez fait, vous êtes à l'intérieur, bon, c'est comme ça. on n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous guider et pour vous apporter, disons, du soutien, voilà, et puis surtout un peu de réconfort, parce qu'ils en ont besoin aussi, parce qu'ils sont souvent oubliés. Personne ne parle d'eux, hein, d'ailleurs, à la télévision, souvent, ouais, délinquants et tout ça. C'est tout. On est là toujours pour leur taper sur la tête. Ils font un amalgame, hein, souvent dans les médias. Donc, entre un terroriste, un criminel d'enfant, et puis un jeune qui a commis un larcin, voilà, c'est pas beau. C'est pas beau. On va pas dire que c'est bien,
mais
c'est pas bien.
C'est pas pareil.
Voilà, enfin, la part des choses, c'est pas le même niveau. Donc, voilà, il faut pas la part des choses. Moi, ces gamins, j'ai envie de leur dire, bon, vous avez fait des bêtises, vous avez fait des choses qui ne se font pas, vous êtes en train de payer, bon, c'est comme ça, mais tout est rattrapable dans la vie, vous allez sortir, mais vous êtes à l'intérieur maintenant, vous êtes, voilà, en prison. Profitez de ce temps où vous ne faites rien à l'intérieur, pour justement l'occuper.
Il y en a beaucoup qui sont sortis par des diplômes, hein.
Mais oui.
Qui sont sortis,
bah oui.
Moi, j'ai connu une personne qui est sortie prof de sport.
Ben oui.
Bon, il a repassé l'examen extérieur, mais
ben oui.
Mais, il a passé
ben oui.
Des années, mais,
ben oui.
Mais il l'a fait
oui.
et il a fait tout le parcours,
bien sûr.
Fac, tout.
Oui, il y a un auditeur qui m'a appelé il y a peut-être 3 ans, je crois, c'était juste avant le Covid, qui appelle et qui dit, bah écoute, voilà, il dit, bah ça faisait 4 ans qu'il était à l'intérieur, donc il avait pris 4 ans, il allait sortir. Il dit, voilà, je voulais te dire que j'écoute ce que tu dis. Et ça m'a touché, ça a réussi à, tu vois, quelque part à transpercer, voilà. Donc ce et il me dit, voilà, il a passé son bac, il avait 24 ans à l'époque, il me dit, et il a passé son bac. Il a dit, c'est vrai, je me suis dit, mais ça fait un déclic dans ma tête, j'ai passé mon bac. Et un deuxième qui était en train de passer un autre diplôme, je sais plus, c'est pas une maîtrise. Donc tout est possible. Et en plus, même s'il passe pas le bac, c'est pas grave, mais vous avez des bouquins, prenez ces bouquins, lisez tout, allez-y, informez-vous, c'est hyper important, remplissez ce vide, remplissez ce temps avec de belles choses, avec de la culture, et vous en sortirez que grandi quand vous sortirez de là-dedans, avec des bagages et avec des projets, au lieu de rester à vous monter le bourrichon, pour rester poli, entre potes, chacun va, voilà, il va cracher sur la société, la police, machin, l'État. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, arrêtez, séparez-vous, dites-vous bonjour le matin, c'est pas le khair, tout ça. Mais allez, bouquinez, lisez, profitez de ce temps. Quand vous sortirez, vous allez faire la fierté de vos parents.
Ça permet d'avoir un autre regard même sur soi-même, de se dire je suis capable de faire ça, je peux faire mieux, d'avoir une autre estime de soi, etc. Il y a beaucoup de choses qui en découlent.
Absolument.
Donc c'est ça le problème de la, je vais dire même 90% des jeunes qui font des bêtises et qui sont en prison, mais c'est aussi on le voit pas au premier abord, mais c'est une mauvaise estime de soi.
Ouais.
C'est ça aussi. Ah ouais. Une dévalorisation de soi, c'est ça aussi. Donc le fait de faire des démarches, d'avancer, etc. Eh ben mine de rien, ça leur permet d'avoir une estime
de bien sûr.
Propre personne,
oui.
Et de l'accomplir après plein de choses.
Et oui, et nous bien qui sûr. Faisons partie de la société, parce qu'on parle de société, on en fait partie. Là, nous sommes un média sur Beurre FM, donc ils nous écoutent, ces jeunes, toi, Naïm et d'autres qui intervenaient, eh bien, on est là pour leur dire à ces jeunes, voilà, pour retrouver votre estime de soi, eh bien, on est là pour vous encourager, pour vous dire que vous avez de la valeur et que vous avez votre place dans la société. Mais oui, et vous n'êtes pas rien, c'est pas vrai, même si les autres vous font croire que c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous avez trébuché, vous allez vous relever. Naïm, tu ne pars pas, on a une petite pause. Je te reprends juste après, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Sans tabou et sans langue de bois, et d'ailleurs, vous pouvez le constater tous les soirs, n'est-ce pas? On est avec Naïm et cette émission, justement, ce soir, le thème. Le thème, c'est nous vivons dans un monde où il est de plus en plus difficile d'être soi-même. C'est vraiment, vous voyez, comme quoi on brise les tabous, hein, dans cette émission. Vraiment. On brise les tabous. Parce que, par ailleurs, on vous donne pas cette possibilité de réfléchir sur votre existence sur cette planète, voilà, et de vous poser des questions, parce qu'en vérité, quand on a la tête dans le guidon, comme on dit, parce que de la société où on, où chaque groupe, on va dire, je parle pas de communauté, je n'aime pas ça, chaque groupe, eh bien, de personnes, parce que c'est comme ça que ça se passe, on est des groupes, hein, on est, voilà, eh bien, chaque groupe de personnes, eh bien, systématiquement, ben, rentre dans les codes, dans les normes qui ont été créées, qui ont été établies par des personnes, tout simplement. Et qu'on leur dit, c'est comme ça que vous devez fonctionner et pas autrement. Et ça, vous le remarquez, qu'il y a des groupes d'humains, voilà, partout sur la planète, et chaque groupe fonctionne selon ce que son groupe a décidé que, voilà. Donc, comme il est bien, comme il est bon, comment on se sent libre, pousser des ailes dans le dos, vraiment, de sortir de tout ça, de faire partie du groupe culturel, c'est beau. On adore nos cultures, bien sûr qu'on aime ça, on les aime, mais on prend ce qui est bon dans nos cultures. Mais il y a tellement à côté. Vous savez, quand, par exemple, voilà, les fruits sont bons. Voilà la métaphore. Et on aime les fruits, n'est-ce pas? Voilà. Par exemple, je sais pas, moi j'aime bien les kiwis, les kiwis c'est bon. J'aime bien en ce moment, j'aime bien les fruits de saison, j'aime bien les litchis, j'adore. Donc voilà, tous les soirs, je mange quelques litchis avant de dormir, j'aime bien. Petite tisane, litchi, très bien. Donc, je ne vais pas manger un litchi entier avec l'écorce. Hein. Ouais, voilà. Je ne vais pas manger. C'est pas possible. Ce serait immangeable. Par contre, voilà, je retire la coquille, enfin l'écorce, tout ça. Et je mange le fruit qui est à l'intérieur. Et je jette le noyau, parce qu'il y a un noyau. Je ne mange pas le noyau, voyez-vous. Donc, je retire ce qui est à l'extérieur. Je retire le noyau et je mange, disons, la chair qui est juste succulente. On est d'accord. Pour l'orange, c'est pareil. On mange pas la peau de l'orange. On enlève la peau. Voilà. Et la clémentine, etc. On peut aller très loin comme ça. Et le kiwi, etc., etc. Ben, pour le reste, c'est comme ça. Parce que dans la société, on vous dit, tu manges l'orange avec la peau. Tu manges le kiwi avec sa peau. Et tu manges l'avocat avec sa peau. Tu manges tous les fruits et les légumes, tout avec leur peau. Ben non, c'est pas possible. Moi, ça, il y a des personnes qui l'ont compris. Voilà, on prend de notre culture la chair du fruit, qui est juste succulente, et puis autour, il y a des choses qui ont été véhiculées depuis des siècles, et qui nous empoisonnent la vie, qui sont plus toxiques, et qui servent à rien. C'est juste, disons, un poids. Voilà. On a Naïm. Naïm, il est toujours là. Tu as écouté un petit peu ce que je viens de dire, Naïm?
Oui.
La métaphore, le fruit.
C'est exactement ça.
Mais c'est vrai, parce que la culture, c'est bien. Il y a des gens qui te disent, ah là, ma culture, c'est la plus belle et tout. Non, c'est pas vrai. Toutes les cultures sont belles, mais à l'intérieur des cultures, il y a des choses, on peut les mettre de côté. Hein.
C'est ce que je dis. Alors chacun prêche pour ça.
Oui, c'est ça. Ben oui.
C'est ça. Donc du coup. C'est vrai que c'est pas évident de faire un travail sur soi et c'est déjà de vouloir, déjà le comprendre et le savoir et le vouloir.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et d'être conscient que nous avons la possibilité de faire fonctionner notre libre arbitre, notre pensée propre, c'est ça qui est important, et que nous sommes tous des individus différents. On n'est pas une masse, c'est pas possible, on n'est pas une pâte. C'est pas une pâte pour faire du pain. Allez, tu fais un pain avec une pâte, paf, 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 tu mélanges. On n'est pas une pâte. On est tous uniques. Je peux te garder, Naïm? Peut-être qu'on pourra faire un petit débat tout à l'heure, parce que je trouve que ton point de vue est intéressant. Mais écoute, merci. Merci, Naïm, ne pars pas. 01 53 48 3000. On a Safia, elle nous appelle de la Courneuve, notre Safia. Bonsoir, Safia.
Bonsoir, Vanessa.
Bah, écoute, ça fait plaisir de t'entendre. Bonsoir.
C'est plaisir partagé.
Merci. La pétale de lys. Avec diamants, je ne sais pas quoi.
Des fleurs de lys en pétale, au pétale de diamant.
Ah oui, c'est vrai. Oh.
En plus, c'est simple. Bon, il n'y a que moi qui.
Il n'y a que toi.
Qui est en connexion avec ton âme et qui le ressent de manière intense et pure et parfaite.
Oh mon Dieu. Je t'adore. Merci, ma Safia. Alors, Safia, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je suis sûre que ce sujet te parle. Hein? Je suis sûre que ce sujet te parle, toi.
Bah oui, droitement, au plus profond de mon être, de mon âme, de ma conscience, de ma pâte, j'allais dire, oui, ma pâte charnelle, si tu veux.
Ça coule de source, non, oui.
Oui, coule de source dans la mesure où est-ce que tu as bien présenté ta, ton sujet et ta thématique. Effectivement, enfin, pourquoi il faut retourner et que c'est un effort irréductible qu'on doit avoir sur, sur nous-mêmes, de nous construire et d'être qui on est. Sans ça, cette vie sous terre n'a pas lieu d'être, pour moi. Et donc, là, ce que je veux te dire, il y a une emprise. Enfin, toute vie humaine est une lutte, coûte que coûte, pour pouvoir se... Enfin, tu vois, en matière philosophique, il faut accoucher de soi-même et se, enfin, presque se enlever toute, comme tu disais, la, l'image des fruits, là, quand tu manges ton litchi. Ben, c'est ça. C'est que quelque part, au sein de ta propre structure familiale, il y a des fausses croyances qu'on va te, t'injecter, qu'on va, avec lesquelles on va te toxifier dans ta cellule et dans ton milieu familial, dans l'environnement de ta culture aussi. Enfin, moi, je suis décomplexée dans, dans toutes les communautés, et dans, tout, dans, dans tous les milieux socioculturels, il y a des choses qui sont autant bonnes que mauvaises.
Ah, mais c'est partout, hein, dans toutes les cultures, hein, quand je parlais du litchi, enfin, j'ai pris cet exemple, quand on l'épluche, l'écorce, elle est dans toutes les cultures, hein.
Oui, j'ai pas fermé.
Tu as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Discerner le truc. Et après, de l'autre côté, après, quand tu vois, alors, après, quand on est à l'échelle sociétale, là, on vit, en plus, on vit dans un temps où est-ce que tout est compressé, où est-ce que les choses sont disruptives, où est-ce que les choses sont volatiles. Et donc, en plus de ça, d'être dans un système où est-ce qu'on nous oppresse à devenir des machines à productivité. Bon, on regarde le conflit qu'on traverse par rapport à la réforme du travail là, à la réforme retraite, où est-ce qu'on nous dit que maintenant bon on va aussi serrer la vis et retourner le système pour que on puisse avoir une vision purement économique et que l'individu soit une variable d'ajustement. En gros, c'est ça la bascule dans laquelle on est en train de vouloir nous faire basculer. Et donc, on a une oppression autant à échelle de notre vie, de la cellule familiale dont on est ici, la première cellule institutionnelle, et autant à échelle sociétale. Et dans tout ça, il faut que tu puisses, qu'on puisse dresser notre fil conducteur et être en branle pour pouvoir se libérer et créer qui on est. C'est particulièrement... on va dire complexe et délicat pour devenir qui on est. Mais il faut coûte que coûte tenir et vraiment être au plus profond de son être dans cette capacité à pouvoir se libérer, comme tu le dis, à rester dans notre dimension juste remarquable et magnifique d'être humain, avec tous les bénéfices que ça apporte de d'être une personne avec sa conscience, avec son libre arbitre, son libre choix, être une personne qui va porter le poids de ses souffrances et de ses douleurs, parce que notre condition humaine elle nous porte aussi à ça. Et puis moi comme je dis aussi dans ma racine de d'origine maghrébine, être autant en équilibre dans ma francité que dans ma culture d'origine, qui est avant tout un rapport de force et un rapport de puissance que je peux apporter à la société dans laquelle je suis.
Oui, entièrement d'accord. Et moi, je pense vraiment fortement que... je pense être dans le vrai, parce que je pense, tout le monde le sait, ça. Tout le monde a peur du rejet, du regard de l'autre, parce qu'il y a toujours ce jugement, ce fameux jugement dont on parle, tu vois. Donc, parce qu'on a cette fâcheuse habitude de toujours juger les autres. Donc, nous, on juge, les autres nous jugent à leur tour. C'est la peur du jugement, du regard des autres, et donc on n'est jamais soi-même à cause du regard des autres. T'imagines une personne qui dit dans une société quelle qu'elle soit, hein, une société humaine, en disant une idée dans les chez les Indiens par exemple aborigènes, qui quand on regarde des reportages etc. on les voit vêtus, souvent ils sont la nudité chez eux, c'est quelque chose de naturel, tu vois. Donc la nudité, ils sont presque nus et tout ça, c'est dans certaines contrées, ils vivent comme ça. Eh bien, s'il y en a un parmi eux qui part à la civilisation qui revient, qui civilisation entre guillemets, qui part voir voilà d'autres cultures, d'autres civilisations, qui revient avec un costume, qui c'est celui-là, tu vois, on va le regarder, on va le rejeter, c'est juste pas possible. Il est dénaturé, il fait plus partie des nôtres. On va plus parler avec lui parce que pour eux, il fait plus partie du clan. On va le regarder. C'est le visuel est important. Donc voilà, il y a tout ça, tu comprends. Donc ce qui fait que les gens s'obligent à rentrer dans le rang et même quitte à en souffrir, de pas être eux-mêmes. Mais tant pis, la peur du rejet, c'est ça. En fait, c'est le regard des autres, c'est le rejet du groupe. C'est ça. Il faut être hyper, hyper, hyper courageux de dire, moi, je pense différemment. Moi, je crois différemment de vous. Je suis une personne différente. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Il y a des choses qui me parlent pas, que je rejette. Il faut être hyper courageux. Je t'assure, vraiment,
Ouais, mais après, ce que tu dis, la peur du rejet, c'est lié à des blessures d'enfance, parce que bon, tu connais le principe d'avoir d'avoir peur d'être abandonné, d'avoir peur d'être trahi. C'est parce qu'on dépasse pas nos peurs les plus profondes et les plus, archétypales.
Ouais.
Donc, le rejet, à proprement parler, c'est la peur, le rejet de l'intégration, intégré, assimilé, jusqu'à s'en dénaturer dans son code ADN. Et après, c'est vrai que l'effort dans la vie aussi, c'est de dépasser ses peurs et d'être congruent. Et après, je sais pas s'il y a la logique du courage, c'est d'être d'avoir la force d'être au clair avec soi-même. Déjà, quand on est très aligné et très ferme dans qui on est, après, vis-à-vis du reste de la société, excuse-moi du peu, moi, j'ai pas à plaire à qui que ce soit, j'ai à être qui je suis. Et après, quand je fais les choses, ça marche, c'est bien, ça marche pas, j'en ai rien à foutre, je passe à autre chose. Je ferme une porte, je vais en réouvrir 10 autres.
Tu as dit quelque chose d'intéressant.
Pardon?
Quand tu as dit quelque chose d'intéressant juste avant, quand tu as parlé de l'enfant, etc., la peur d'être du rejet, de ne plus être protégé par la tribu, quoi, eh bien, tu as dit quelque chose, qui vient de loin, de l'enfance, etc. J'irai même plus loin, parce que j'ai fait, bien entendu, tu imagines, j'effectue quelques recherches. Eh bien, je vais te lire quelque chose qui, justement, qui rejoint ce que tu viens de dire. Être soi-même dans la société est un défi ancestral. Écoute bien. Derrière la pression sociale se cache la peur du rejet. Elle est inscrite dans l'ADN de l'être humain.
Oui.
Qui est, ne l'oublions pas, un animal social, bien sûr. Chaque individu pense, a raison, être différent des autres, mais il partage cet ADN avec ses ancêtres ainsi qu'avec tous ses congénères modernes. À l'origine, la peur, écoute bien, du rejet, et ça, ça rejoint ce que tu as dit, à l'origine, la peur du rejet était une question de survie. Quand un être humain était rejeté de sa tribu, il se retrouvait isolé, privé de la protection des siens, face à une nature hostile. Il risquait tout simplement la mort. Alors aujourd'hui, les loups, les lions et autres prédateurs ne risquent plus de nous dévorer si notre tribu nous rejette. Pourtant, pression sociale et peur du rejet sont toujours bien ancrées. Aujourd'hui, pour être lui-même, l'individu doit surmonter une pression plus pernicieuse, c'est-à-dire qu'elle ne se voit pas aux premiers abords, mais qu'on ne s'y trompe pas, cette pression n'en est pas moins réelle.
Ben, bien sûr.
C'est ça. Donc ça remonte vraiment... On remonte très loin.
Je suis complètement dans l'adhésion de la présentation et de tes recherches documentées que tu viens de nous exposer. Et après, de l'autre côté, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a de pernicieux, c'est que même quand tu vas te dresser et que tu vas te construire, parce qu'on se construit tout au long de la vie, comme le disait Naïm, l'ouverture de l'esprit et l'ouverture de conscience fait que, enfin moi je sais que j'aime bien absorber et être à l'aise dans tous les milieux intellectuels, dans tous les milieux, me tenir au courant, très informée, instruite, renseignée, éduquée sur tout ce qui se passe. Donc ça c'est mon principe, c'est une hygiène de vie chez moi.
C'est bien, c'est tout à ton honneur, c'est bien.
Oui, mais enfin, et après, de l'autre côté, ce que je veux dire, après, je suis dans les invisibilités de la conflictualité, de la dureté, de la méchanceté, de la violence, je fais tomber les voiles et les masques. Je suis parfaitement raccord sur qui est qui et qui porte des masques. Et la société est hyper violente, perverse.
Ouais.
Et on est dans une conflictualité systématisée.
C'est ça. C'est ça. Oui. systématisé.
Donc, il est très dur aussi de devoir de être debout, être ferme dans qui on est, et en gros, être en résilience pour s'affirmer et s'exprimer en qui on est. Avec notre, en toute modestie, en toute humilité, avec qui on, parce qu'on n'est rien du tout.
Non.
Avant tout, enfin, moi, je suis lucide avec moi-même, de rien c'est, que je suis.
C'est clair, on n'est pas grand-chose, vraiment. Voilà. Dans l'univers. Moi,
je sais que j'aime pas trop voler la place aux autres, et je vais laisser les autres s'exprimer pour bien les écouter.
Eh ben, écoute, merci en tout cas. Merci, merci de nous avoir apporté tes lumières. Et je t'aime fort. Même. Je t'embrasse. À bientôt, bon. Safia. J'adore Safia. Elle a toujours des choses intéressantes à dire et. Et c'est vrai que c'est une lumière, moi, je dirais même. 01 53 48 3000. Alors, allez les autres, on se réveille. On se réveille. Il reste de la place au standard. Allez, on monte. Hein. Le train ne démarrera pas sans vous. Hein, tant qu'il est pas, il affiche pas complet. On a Kalou. Alors, Naïm, tu ne pars pas, Naïm. On fera un petit débat tout à l'heure. On a Kalou. Kalou est à ta radio, s'il te plaît. Bonsoir, Kalou. Allô, Kalou. Il est où, Kalou? Kalou, ben, il se passe quoi? Allô, allô?
Allô?
Oui. Alors, Kalou, tu as un haut-parleur? Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, désolé, j'ai ma radio.
Alors, tu as décidé qu'on se fâche tous les deux ce soir? Éteins ta radio, éteins le haut-parleur. Juste ton téléphone et la voix.
Ouais, ok, d'accord.
Ben oui, Kalou, quand même. On fait de la radio. Bon, Kalou, je te laisse en attendant que tu règles ton problème. On prend Rabah. On a la pub. D'accord. Allez, Rabah, tu ne pars pas. Les autres, on vous attend. 01 53 48 3000, vous pouvez parler de ce sujet si vous sentez concerné. Sinon, vous pouvez parler d'autres choses, chers amis, bien sûr. Et encore une fois, toutes nos condoléances. Hier soir, nous avons dédié l'émission Confidence sur Beurre FM hier soir. En hommage à cette petite Sihem qui est décédée dans des conditions abominables, vraiment atroces, de tout cœur avec la famille de Sihem, ses frères, ses parents, son papa, sa maman, son cousin Azdin qu'on a vu qui est digne, vraiment ces interventions, on les a vues aujourd'hui à la télévision, juste magnifiques. Voilà, une famille vraiment digne et pleine de disons de sagesse, parce que dans leurs propos il y avait pas de, je sais pas, il y avait pas des propos belliqueux, etc. C'était beau à voir et à entendre surtout, et ils honorent vraiment leur fille. Voilà, la yarhamha Sihem. 01 53 48 3000, vous ne partez pas, on a une petite pause, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h 23h Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Oui, de tout cœur avec les parents, la famille, les proches de Sihem qui actuellement sont plongés dans la pire des détresses. Vraiment, on imagine le chagrin sans fond. C'est vraiment le puits sans fond. Hein. Terrible hein, ce qui leur arrive. De tout cœur avec eux et tout le monde est sidéré. Hein, vraiment, autour de nous, on entend hein, les gens. Vraiment, ici à la radio, tout le monde s'est mobilisé, tout le monde en parle. Depuis hier, je vous disais, la direction, Dima Ketan, qui était dans un état pas possible, c'est une maman. Et toute la radio, on est tous vraiment malades depuis la découverte du corps de cette pauvre petite malheureuse jeune fille. Et j'en profite, vraiment, je profite de cette occasion pour dire aux parents, il faut vraiment être vigilant. Plus on est vigilant, et je pense, et plus on peut pallier à certaines situations. Bien sûr, pas à tout, parce que parfois, il y a des choses qui nous échappent, mais parlez aux jeunes. Parlez à vos enfants, dites-leur qu'ils ne fassent confiance en personne, finalement. Voilà. Même des membres pseudo, famille, etc., un peu éloignés. Voilà, Sihem, c'était l'ex-mari de sa cousine. La pauvre petite, peut-être, il voulait parler, parce que comme elle gardait les enfants, on ne sait pas, hein, c'est une supposition. Peut-être qu'il voulait parler de je ne sais pas, parce qu'elle garde les enfants, enfin, on ne sait pas. Donc, elle a fait confiance, ou il a dû la tirer en lui disant, je vais te dire quelque chose pour la famille. Enfin, on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. Mais en tout cas, faites attention, vraiment, pas faire confiance en qui que ce soit, vraiment. Dites-leur, parce que cette gamine, faut qu'elle, ce qui lui est arrivé, malheureusement, eh bien, serve de leçon pour la suite, pour les autres. Vraiment. 18 ans, c'est jeune. C'est jeune. À 18 ans, il n'y a pas de maturité. C'est vrai qu'avant, les femmes, il y a 50 ans en arrière, à 18 ans, il y avait une forme de maturité, c'était autre chose. Et les temps étaient différents. Mais aujourd'hui, c'est une autre époque. Et les prédateurs sont partout. Ben oui, aujourd'hui, les prédateurs sont partout. Nous sommes une époque de prédateurs et de proies. Donc prévenez les jeunes, prévenez vos filles, dites-leur, ne faites confiance en personne. Ce jeune homme, Mohamed, la semaine dernière, pareillement, qui a été le pauvre, on l'a découvert, vous voyez, coupé en morceaux dans les canalisations. Quelle horreur, encore une fois, mesquine. Du même âge que cette jeune fille. Voyez-vous, soit les garçons, les filles, prévenez vos enfants. On les prévient jamais suffisamment face à ces horreurs, parce qu'on est entouré de prédateurs. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment être vigilant. Voilà. 01 53 48 3000. On va prendre la bête. Les autres, réveillez-vous. Hein. C'est calmos ce soir, hein, encore une fois. Hein. Après 22h, tout le monde vient en disant on n'arrive pas à voir l'antenne. Et tout le monde se plaint. Rabah, bonsoir.
Bonsoir, Badessa.
Bonsoir, bienvenue, Rabah.
Je t'en remercie. Je reviens sur les propos d'hier soir. Enfin, encore toutes mes condoléances à toute cette famille.
Oui, j'étais obligé de te couper hier, tu sais pourquoi. Bon. On ne va pas revenir là-dessus.
Non,
je pense que tu as compris.
Tu
vois, je te reprends parce que tu es un ami de la radio, tu nous appelles régulièrement, ouais. Tu es un fidèle, tu es quelqu'un que j'apprécie énormément. Bon, hier, tu étais dans l'émotion et c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé avec cette gamine et tout, les paroles ont dépassé les pensées et que, bon, moi, je t'ai répondu juste que, bon, on fait pas justice soi-même, quoi. C'est juste pas possible de laisser passer ce propos. Ah, deux mecs, maintenant, on avance. Ouais, mais sans revenir dessus pour pas... Hein.
Reviens pas là-dessus. Mais
non, pour pas s'en bourrer.
Il faut faire attention à... Moi, j'ai une fille, j'ai un garçon.
C'est oui. Ils ont quel âge, tes enfants, là-bas? Je sais que tu as deux enfants que tu élèves seul, en plus.
Ouais. Ils sont entre moi et mon ex.
Oui, mais enfin, tu es seul, tu es...
Oui,
séparé,
seul,
tu es divorcé, voilà.
Oui, je suis divorcé.
Ouais.
J'ai une fille qui a 22 ans, j'ai un garçon qui a 19 ans.
Oui.
Ils sont hyper... ils sont...
C'est des jeunes qui vivent la jeunesse, leur époque.
Ils vivent leur jeunesse, voilà.
Voilà.
Et moi, le truc, bon, l'histoire, enfin, moi, ça m'a tué, quoi. Enfin, je sais pas.
Ouais.
On va à la fête des parents. Puis la mère qui passe à la télé, qui
demande
le pardon et qui demande, enfin, qui pardonne tout. Et puis.
Avant la découverte du corps de
oui,
sa fille, hein. Elle a dit je pardonne si on rend ma fille. Voilà, rendez-la moi et je pardonne.
Pardonne, je m'en fous.
Mais bon, voilà dans quel état elle a été rendue, hein, quand même. Tu vois.
Mais franchement, ouais.
La pauvre maman. Hein.
Bah moi, ça m'a pris hier soir. Tu vois, je t'ai dit ce que je pensais.
Ouais.
Bon, c'était un peu.
Ouais, bon. Les paroles ont dépassé les pensées, mais je comprends, tu es un papa. Tu es un papa et tu as deux enfants. Et comment tu leur parles, les enfants? Comment ils ont pris cette nouvelle, les enfants, tes enfants?
Les enfants,
quand ils ont appris ce qui s'est passé,
ma fille l'a pris un peu bizarrement, mais bon, après elle.
Elle a été choquée, bien sûr, comme tout le monde.
Je pense qu'on est tous choqués. Ouais. On est tous choqués.
Et vous en avez parlé? Est-ce que tu. Justement, d'être vigilant, de ne pas faire confiance comme ça, aveuglément?
Ah, moi, c'est pire. Donc ma fille, elle travaille la nuit, tu sais, elle est à Robert Debré, elle travaille à l'hôpital,
elle rentre
en voiture.
Ah oui.
Bon, après, je ne connais pas toutes ses fréquentations. On parle, mais toutes ses fréquentations, je ne les connais pas.
Oui, 22 ans, mais bon.
Tu sais, il ne s'ouvre pas totalement à toi. Mmh. Et que tu sois proche.
Mais c'est bien d'en parler, c'est bien de lui parler, d'échanger, d'établir, tu vois, un climat de confiance. C'est important.
Mmh. C'est important.
Hein. Oui.
Il n'est pas moi, normalement. Ouais. On aurait tout savoir ça. Après, franchement, ouais, ça m'a tué. D'entendre ça, tu vois, voilà, la réaction que j'ai eue.
Ouais. Je comprends. Ouais, je comprends.
Un père de famille.
Voilà. Ouais, je sais. On est tous retournés. Hein, on est voilà. Mais vraiment. Sinon,
on doit pardonner, mais...
Pardonner parfois, je ne sais pas comment on peut pardonner ça, mais bon.
C'est super dur, quoi.
C'est quelque chose d'impardonnable, hein, déjà. Ça, c'est, je sais
personnellement,
pas.
Je ne pardonnerai pas.
Ça, tu ne peux pas. Et la famille a été d'une dignité remarquable, hein, parce que tu as entendu le cousin qui disait « on fait confiance en la justice ». Tu vois, c'est bien. C'est des propos posés, réfléchis. Il n'y a pas de propos,
en
tu
plus,
vois.
On se retrouve dans la famille.
Voilà.
En fait, c'est une famille humble. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une famille voilà, qui cherche juste le bonheur de leurs enfants, qui cherche juste ça. Et puis derrière, je sais pas, bon, après, je les connais pas. Hein. Entendre ça, en tant que père de famille, si je veux, c'est pas. Moi, je me suis exprimé hier soir, c'est vrai, c'était un peu violent, dans le sens où. Mais franchement, ouais. Enfin, une personne de 18 ans, elle ne mérite pas ça, quoi.
Ouais, et puis quelle dignité. Tu as entendu que les parents, je ne sais pas qui, a voulu mettre en place une cagnotte qui a commencé à circuler sur les réseaux. Et la famille refuse tout argent de cette cagnotte. Franchement, honneur à eux, hein. Bravo, hein. Bravo, bravo, hein. Quelle dignité. D'ailleurs, ils en ont parlé même sur différents médias ce soir. La famille de Sihem refuse cette cagnotte. Alors, je ne sais pas qui a voulu mettre en place la cagnotte, mais la famille a refusé. Voilà. Ça, c'est juste magnifique et c'est un, voilà, encore un exemple de fierté, de dignité et d'honneur. Voilà, pour leur fille, et voilà. Ça, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Il fallait le soulever, ça, et en parler. Voilà. Donc, la famille n'accepte pas l'argent de la cagnotte. Voilà. Alors, donc, s'il y a des personnes. Non, mais j'en profite pour dire, s'il y a une cagnotte qui circule, au nom du CIEM, attention, soyez vigilants. C'est pas la famille, la famille, donc, qui s'appelle Belou Hamia. Belou Hamia. Donc, ce n'est pas la famille de Sihem qui l'a mise en place. Ils refusent toute cagnotte ou l'argent de cagnotte et tout ça. Ils n'en veulent pas. Voilà. Donc, que ce soit dit, alors, s'il y a des cagnottes qui circulent, je ne sais pas d'où elles viennent, mais en tout cas, ce n'est pas la famille. Et la famille n'est pas d'accord. Voilà, comme ça, c'est dit. Sinon, à la barre, concernant le sujet de ce soir. Parce que je suis avec Naïm qui est là, en attente, on va faire un débat avec lui. Concernant le sujet, Naïm l'a bien développé d'emblée, dès le départ. Alors j'ai beaucoup aussi aimé l'intervention de Safia, comme toujours, Safia, voilà, qui toujours, elle est toujours dans le sujet. Alors il y a ça, alors donc qu'est-ce que toi tu penses? Nous vivons dans un monde où il est de plus en plus difficile d'être soi-même. Est-ce que ça te parle?
Alors, ça me parle. Ça me parle, mais quand j'essaie d'être moi-même, après, je vais parler au niveau du travail ou relationnel, enfin, plus au niveau du travail, c'est que quand j'essaie d'être moi-même, j'ai des rejets, parce que je ne rentre pas dans le moule.
C'est-à-dire
sans rentrer dans les moules. Dans le moule.
Par exemple, donne un ou deux exemples comme ça qui te passent par la tête. Auquel tu penses?
Par exemple, quand je m'exprime dans le sens où, par exemple, un jeune qui vient de rentrer, bah, par exemple, tu vois, il n'y a pas longtemps,
ouais.
Un jeune qui vient de rentrer dans la boîte où j'étais, qu'il fallait former.
Ouais.
On pense, enfin, il fallait former sur un secteur, enfin, dans mon domaine, c'est le transport, et il fallait former. Mais on lui donne pas le temps. Donc, on m'a dit, il faut le former, mais vite fait, une heure ou deux. Et on va lui expliquer.
Une heure ou deux, alors, mais déjà, est-ce que déjà, il est. Je sais pas, est-ce qu'il est diplômé?
Il n'est pas expérimenté.
Il n'a aucune expérience. C'est son premier job. Et c'est quoi? Ça consiste à quoi?
Comment?
C'est quoi le travail qu'on lui propose? C'est quoi
dans le secteur de la livraison, dans le transport en semi-remorque.
Et lui, il fait quoi dans. Lui, c'est quoi sa fonction?
Qu'est-ce
qui lui est attribué? Il est chauffeur. Chauffeur.
Oui, il est arrivé dans l'entreprise. Et,
parce que moi, je sais que toi, tu es chauffeur poids lourd, toi.
Pas. Ouais, super lourd.
Super lourd. Et lui, ouais. C'est la même chose.
Il fait la même chose, mais sauf qu'il est.
Il a juste le permis et il est débutant, d'accord.
Voilà, il arrive sur le secteur. Après, il y a des endroits où il faut livrer, et puis c'est par exemple des magasins. Et il faut lui expliquer que on rentre pas par la rue principale, on rentre par les côtés, coin livraison. Mais après, c'est pas spécialement indiqué. Et après, il faut lui montrer se mettre à quai, tout ça. Enfin, histoire de ça. Mais non, on n'a pas le temps de former. Non, il faut qu'il débrouille tout seul.
Ah oui, tout va vite, hein, là.
Voilà. Il faut aller vite parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas de temps à perdre, on n'a pas le temps. On ne peut pas lui expliquer, on ne peut pas le. Tout de suite. Il faut qu'il soit tout de suite, il faut qu'il soit autonome tout de suite. Il faut qu'il comprenne que, bon, par exemple, je ne sais pas, tu arrives dans un magasin, une enseigne connue. Ben non, tu ne rentres pas par le parking, tu rentres par derrière. Mais est-ce que lui, il le sait? Est-ce que la rue. On lui donne, en plus, on ne lui donne même pas l'adresse, on lui donne juste l'adresse du magasin.
Ah ouais, c'est délicat, dis-donc.
Par exemple, tu vois, c'est des choses que moi, on m'a expliqué il y a longtemps. Mm-hmm. Pas que sur les magasins, sur autre chose. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai eu un jeune, on m'a dit, tu le prends une heure, et après, il se débrouille tout seul. J'ai dit, ouais, mais il a 5 magasins à faire. Ok, mais bon, après, voilà, quoi, le gars, il est obligé de s'arrêter. Bloquer les rues, par exemple, et puis rentrer soit. Après, il peut casser du matos, hein. Il peut casser. Il peut,
ah oui, ça, c'est. C'est pas, une, forma... on c'est on pas une formation, c'est du bâclage.
On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de le former.
Ah ouais, carrément.
Lui, il a 23 ans. Mm-hmm. Moi, j'en ai 53. Mm-hmm. Voilà. Moi, je suis arrivé aussi, hein. Je connaissais un peu.
Oui, mais enfin, lui, il débute. Non,
on m'a formé, moi. Moi, on m'a pris, pris le temps de me former à l'époque.
Et aujourd'hui, on ne prend plus le temps.
C'était 5-6 jours.
Donc, c'est ça que tu reproches, oui, oui, tu as raison. Oui,
par exemple, à la société. Oui, c'est ce que je reproche à des sociétés.
Ouais.
Mais après, il y a aussi le fait. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses comme ça.
En dehors du travail, parce que tout à l'heure, on a parlé de tous les domaines, hein, tout ce qui concerne une société. Tu vois, on va reprendre Naïm avec nous, tiens. Naïm, tu es toujours là? Naïm de Toulouse.
Oui, je suis là.
Tu es toujours là. Tu es à ta radio, Naïm?
Oui.
Tu as été à la radio?
Oui, oui, c'est bon.
D'accord, merci. On est avec Rabah. Justement, on aborde le sujet. Alors donc, Rabah, il parle du domaine du travail, oui. Mais ça, c'est valable dans tous les domaines, hein. Vraiment.
Oui, alors, c'est valable pour le domaine professionnel, personnel, vie sentimentale et tout. Donc c'est valable pour tous les domaines, hein. Ça peut aller de l'affirmation de soi dans une entreprise, ne pas avoir le même caractère que les autres, ne pas s'affirmer, s'affirmer différemment.
Est-ce que toi, Naïm, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que toi, Naïm, tu t'es retrouvé justement dans une situation pareille où tu as dû buter justement des idées déjà bien en place? Où tu faisais des ordres parce que toi tu pensais différemment.
Oui et non.
Est-ce que tu dérangeais?
Oui et non parce que oui et non parce qu'en fait chacun a aussi sa personnalité, comme a dit l'auditrice au début.
Oui.
Donc chacun a sa propre personnalité. Et la personnalité de chacun, étant adolescent, etc., va définir ce qu'on va être plus grand. Mais, comme l'a dit l'auditrice en premier, tout en incluant dedans les valeurs et les patrimoines que nous inculquent nos parents, etc., culturels et cultuels. Donc, moi, personnellement, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça, mais j'ai eu des fois des débats avec beaucoup d'amis, parce que moi, je reviens aux religieux, je suis croyant, et j'ai eu des débats avec des amis qui sont très pratiquants. Et on en discute facilement. Pourquoi? Bon, c'est des personnes déjà qui lisent beaucoup, qui sont très ouverts d'esprit, donc qui ont une ouverture large. J'en parlais avec ma femme justement la semaine dernière, même récemment. On en parle souvent. On a une autre approche du religieux. On a une autre approche. Et c'est vrai que quand on est face à des personnes qui ne comprennent pas ou qui ont l'esprit étriqué, eh bien, ils ne peuvent pas comprendre, en fait. Et là, on se sent rejeté. Enfin, rejeté, non. Mais... on se sent...
mal compris.
Pas compris, voilà, pas compris. Enfin, moi, pour ma part, c'est pas compris, parce que moi, j'ai mon opinion. Ce qui est une vérité pour lui n'est pas une vérité pour moi. Mais c'est vrai que c'est des fois, ça peut être compliqué pour certaines personnes.
En fait, toi, tu as choisi, quelque part, une forme de lutte, de lutter pour préserver, justement, ce libre-arbitre et ta pensée. Alors, contrairement à d'autres... qui choisissent la facilité, qui n'en pensent pas moins, cela dit. qui n'en pensent pas
il y
moins.
Il y en a qui
choisissent
pas.
La facilité, qui n'osent pas, voilà.
Il y en a qui n'osent pas. Oui, voilà. Ben, c'est différent parce que il y a aussi le côté culpabilité. Alors la culpabilité, c'est quelque chose qui peut dévorer quelqu'un parce que il vit une double vie. Et ça, l'auditrice du début l'a dit quand elle a dit que les jeunes de issus de l'immigration, les jeunes d'ici, pardonnez-moi l'expression, mais on a toujours eu le cul entre deux chaises étant jeune. Ouais. Et quand on ne sait pas s'affirmer en grandissant, eh ben ça peut poser problème. Parce qu'on vit avec la culture française, mais on mange avec la culture algérienne, marocaine, tunisienne, ce qu'on veut.
Ouais.
Voilà. Mais ça, ça pose un gros problème. Ça pourquoi ? Parce que les jeunes, moi je pense, ne savent pas de quel bord ils sont.
Mais écoute, c'est très... Alors, c'est hyper intéressant. Là, on est en train d'aborder un autre volet qui est très, 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 très intéressant. Alors, moi, je trouve que tu en parles très bien et je sens que tu vas bien le développer. Je te propose de te reprendre juste après cette pause. On a une page de pub qui passe. Juste après, on a un son. Je vous ai choisi Khaled Waharan Waharan.
Voilà. Et je suis avec ma femme que j'aime énormément.
Ah.
Et qui est à côté de moi depuis tout à l'heure et qui patiente, la pauvre aussi.
Ah oui, eh ben écoute, tu vas nous la passer alors ta femme. Ne pars pas. Je vous reprends juste après. Et les autres, on vous attend. Venez débattre avec Naïm qui ce soir, en tout cas, parle de choses qui sont, je pense, qui vous parlent à vous tous. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant.
Eh bien, vous avez écouté Damso, cœur de pirate. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et c'est le choix d'Anthony. Il en est très fier. 01 53 48 3000. Eh bien, chers amis, ce soir, nous parlons d'un sujet qui, ma foi, ce soir, ce sujet ne draine pas foule, mais draine, disons, certaines personnes, voilà, qui attirent certaines personnes qui se sont touchées par le sujet. On a eu très belle intervention de Safia Naïm, qui est toujours là. D'ailleurs, on est en train de faire un petit débat là-dessus avec Naïm. Et je trouve l'intervention de Naïm très, très, très intéressante. Naïm de Toulouse, qui est toujours là.
Oui.
Alors, je te laisse continuer. Désolé, Naïm, pour cette attente, mais ça valait le coup pour écouter la suite.
Il n'y a pas de souci.
Alors.
Donc, du coup, c'est vrai qu'on disait que les jeunes ont souvent le pour dire l'expression un peu crûment, mais le cul entre deux chaises, quoi.
Oui, c'est ce que tu disais, c'est vrai.
C'est pas évident parce qu'en fait, ils savent pas d'où ils... Enfin, le cerveau n'arrive pas à assimiler ou il n'arrive pas à se construire avec deux pôles complètement différents, en fait.
Mm-hmm.
Parce qu'à la maison, on vit à la façon maghrébine ou espagnole ou italienne, ce qu'on veut.
Ou africaine.
Mais à l'extérieur, on est français.
Oui.
C'est ça, on vit à l'heure française.
Oui. Mais on mange à européenne, on va dire même. Hein, c'est ça.
C'est ça.
Mm.
Et le problème, c'est, se pose encore plus le problème quand on va au bled en été, par exemple.
Ah.
Voilà. Combien on fait le deuil, même plus tard, de ne plus trop y aller parce que justement, ils se sont sentis plus français que leur culture d'origine.
Oui, là-bas, ils se sentent plus français, tu veux dire. Et ici, ils se sentent plus plus attirés, enfin attirés, plus concernés, on va dire, par la culture des parents.
C'est ça, c'est ça. Et ça, grandir comme ça, ça amène un tas de soucis, parce que la personne ne sait pas trop qui elle est. Mmh. Pour la construction de sa personnalité, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, il se renferme dans les principes, etc., inculqués, comme disait la première auditrice de force, qui peuvent être aussi nocifs, parce que ça ne correspond pas à sa personnalité ou ses émotions ou autre. Et il vit comme ça. Il vit toujours comme ça.
C'est ce qu'on appelle le choc des cultures.
C'est ça.
Ouais. Le choc culturel, quoi.
C'est ça.
Le choc culturel, plutôt,
le choc
plus
culturel,
juste.
Malheureusement. La deuxième, troisième, quatrième génération, on a fait les frais. Alors que la première génération...
Mais comment on peut l'appréhender, justement? Parce que, bon, il y a bien un moyen.
Alors, l'appréhender, ça dépend. Alors, l'appréhender, pour moi, pour ma part, ça dépend de chacun.
Oui.
Ça dépend de chacun et ça dépend de l'effort qu'il va faire à assumer sa personnalité. Voilà. Plus tard. Donc, dans l'affirmation de sa personnalité... Il va y mettre de la culture qu'il a de chez lui, mais il va se sentir aussi français et assumer le fait qu'il est français à part entière. Parce que c'est quelque chose de compliqué aussi d'assumer ça. Beaucoup vont vous dire, ouais, mais on entend souvent l'expression tu fais ta gaolia ou tu fais ton gaoli. Ça, ça veut tout dire. Ça veut tout dire.
Ouais.
Ça veut dire que leur part à eux de français, ils ne l'assument. C'est pas qu'ils ne l'assument pas, c'est que ils veulent la masquer. Mais écoute, ils sont français quand même, ils sont nés ici. Et ils vivent à leur française, ils mangent à leur française et ils font tout à leur française.
Alors qu'à la maison, ils ont cette influence qui est exercée sur lui.
Voilà,
malgré lui, parce que...
C'est une richesse.
La double culture, en général, c'est, on dit toujours que c'est une richesse. Mais ça peut aussi être un frein au développement,
moi,
peut-être.
Comme j'aime bien dire, des fois, pour rigoler ou quoi, quand je vais, je sais pas, moi, ou autre, je dis, je suis occitan, ça se voit pas trop, mais je suis occitan.
Oui.
Rigoler, donc c'est vrai.
Je
ressemble tout à, sauf à un occitan. J'ai une gueule de marocain, mais je veux dire, je prenais ton anniversaire, je dis, je suis occitan, mais ça se voit pas trop. Voilà. C'est parce que je suis né ici, je connais les coutumes du sud-ouest, je connais les férias, je connais tout, mais je connais.
Mais tu es d'une autre génération aussi. Tu es d'une génération qui s'intègre plus facilement, puisque tu as quel âge, tu disais tout à l'heure?
40 ans.
40 ans. Bon, 40 ans, c'est jeune. C'est Rabat qui disait qu'il y a 50 et quelque chose. Pardon ?
Ma femme et moi, on est d'une génération où on assume vraiment ce qu'on
est. Déjà, oui, vous arrivez à la limite, vous, hein, les quarantenaires. Hein. La limite, limite. Ouais, parce que juste après.
C'est une richesse.
Ouais. Juste après, c'est.
Nous, c'est une richesse d'avoir cette double culture. Elle est d'origine algérienne.
Ah, c'est un beau mariage, ça.
Et voilà. Et moi, je suis d'origine marocaine, donc c'est vrai que c'est une richesse.
Oui, mais enfin, encore vous, marocain, algérien, moi, j'estime que c'est la même culture. Mais voilà, c'est la même culture. Par contre, il y a deux sociétés qui sont distinctes, qui sont différentes. C'est quand les enfants naissent, c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, pour certains, certains même beaucoup. Aujourd'hui, ces dernières générations, depuis, ça a commencé peut-être il y a 30 ans. Et on le voit de plus en plus, hein, c'est de plus en plus flagrant, où tu disais, ils ont entre deux chaises. Où il y a ce communautarisme qui les a enfermés, justement, dans une...
Mais le problème, c'est que c'est la génération de maintenant et plus jeune, ça ne devrait pas être ce souci-là, normalement.
Oui, parce qu'ils vivent dans deux univers culturels complètement différents.
Quand on prend l'exemple de nos parents, ils n'ont pas eu ce souci-là.
Nos
parents, ils sont arrivés, ils ont travaillé... Ils ont souvent courbé les chines, ils ont baissé la tête, ils ont travaillé. Ils étaient beaucoup plus respectés, dans un certain sens, hein, parce que dans notre sens, c'était complètement bafoué, que nous, notre génération à nous. Voilà. Pourquoi ? Parce que eux, ils obtempéraient, la plupart étaient illettrés, donc ils travaillaient, ils saisaient, ils réclamaient pas leurs droits, etc. Mais les jeunes de maintenant, ils ont toutes les cartes en main. C'est ça le problème. Et s'ils ont toutes les cartes en main pour pouvoir évoluer et s'affirmer, affirmer leur personne et affirmer leur double culture qui est une richesse, mais on s'enferme moi j'appelle ça la schizophrénie nationaliste.
Ouais. D'ailleurs, les jeunes, ils ont aujourd'hui, parce que je t'écoute et puis j'ai des idées comme ça qui. Ces jeunes aujourd'hui ont carrément inventé leur propre langage. Avant, c'est vrai que les jeunes avaient un langage commun, je dirais, ma génération. Génération et celle juste après, c'était ce on parlait le verlan. Le verlan, pourquoi ? Pour ne pas être compris des parents, qui n'a rien à voir. Hein. C'est le français, mais on changeait les syllabes, etc. Mais par contre, aujourd'hui, dans les banlieues, dans les cités, eh bien, ils ont un langage propre à eux, qui est différent, qui est un mélange de langue maghrébine. Il y a de l'arabe mélangé à une sorte de verlan un peu réactualisé, qui est différent d'une autre. Et ils ont fait un langage, et il y a des mots d'arabe dedans en même temps, hein, le paradoxe, c'est que ce langage est adopté aussi dans certains... entre guillemets, chic, quartier chic de Paris. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, les jeunes se reconnaissent voilà, ça fait in, ça fait bien de parler ce langage-là. Ce langage est sorti des quartiers, quoi. Voilà ce que je veux dire.
On en parlait avec ma femme il n'y a pas longtemps. Pour nous, ça, c'était du domaine du... À l'époque, dans les années 95-90, pour nous, c'était du domaine de l'impensable, ça.
Ah oui.
Il n'y a que nous qui parlions comme ça entre nous.
Mmh.
Et pour nous, entendre quelqu'un qui s'appelait Damien, jurer Wallah ou parler certains mots, c'était pour nous, c'était du domaine de l'impensable.
Bah oui. Aujourd'hui, tu as les journalistes à la télévision, quand ils parlent, de temps en temps, ils disent par exemple, bah, Inch'Allah. Mais si tu veux, ça n'a pas la même signification. Parce que nous, Inch'Allah, on sait ce que ça veut dire. Enfin, on le dit, on sait, voilà, on connaît le sens. Mais dit de la bouche d'autres qui ne sont pas de la communauté maghrébine ou musulmane, quand ils disent Inch'Allah, c'est peut-être, on verra, tu vois. Hein? Mais ils le disent. Il y a des mots, bon, je pense à Inch'Allah, mais il y a d'autres mots aussi qui reviennent souvent.
Oui, oui, oui. Mais après, c'est vrai que c'est devenu banal et c'est vrai que c'est problématique pour les jeunes pour qu'ils puissent s'identifier parce qu'en fait, vous avez des jeunes qui sont par exemple jamais allés au pays, qui ne sont jamais allés au pays.
C'est vrai.
Mais qui vont défendre corps et âme. Alors, c'est légitime, ils ont le droit. Mais je veux dire, c'est révélateur, c'est de la schizophrénie nationale qu'ils ont.
Mmh.
Parce qu'en fait, ils ne savent pas d'où ils viennent.
Mmh.
Et si les parents ne jouent pas le rôle d'expliquer et d'inculquer comme on l'a eu nous, à la maison, on ne parlait que l'arabe, par exemple, chez nous.
D'accord.
Chez nous, on ne parlait que marocain. Ça n'existait pas. On parle français, pourtant, mes parents.
Oui, 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 oui.
Mais on ne parlait que marocain.
Mmh.
Et mon père, il nous disait, dehors, vous parlez français, faites ce que vous voulez. Et bien, toute une génération a grandi comme ça. Que ce soit des Kabyles, des Algériens, tout le monde a grandi comme ça.
Oui.
Et on est une génération qui, je pense, ça va, quand même, on a sauvé les meubles.
Oui. C'est ça, c'est vrai. Quand je pense à ce langage, justement, il y a des mots qui me viennent comme ça en tête, à l'esprit. Sur les plateaux télé, tu l'entends, hein, aujourd'hui, et d'ailleurs même dans la rue, tous les jeunes qui n'ont rien de maghrébin, et qui parlent de seum. Il a le seum. Le seum est rentré carrément, il est entré de plein pied dans le langage français. Avoir le seum, aujourd'hui, on l'entend même d'intellectuels, de personnes littéraires, intellectuelles, tout ce que tu veux. Et Balek.
C'est une expression qui est sortie dans les années 95-16 à Paris.
Mm-hmm.
Et parce que nous, dans le sud, on n'avait pas encore le verlan. Nous, dans le sud, dans le sud, tout ce qui est Toulouse, Perpignan, Montpellier,
oui.
On parlait un mélange de français avec un petit peu de mots gitans, manouches. C'est pas pareil qu'à Paris.
Ah oui.
Du tout pareil qu'à Paris. Et puis après, le langage parisien est arrivé dans le sud. Mais c'est vrai qu'il y avait cette différence. Mais après, chaque génération, il y a la génération à l'époque à Paris qui parlait javanais.
Oui.
Ça, il n'y en a pas beaucoup encore qui parlent le javanais. Mmh. Et puis après, il y a eu le verlan. Et puis après, il y a eu l'argot.
C'est vrai.
Et je veux dire, chaque génération.
Oui. Mais le langage arabe, enfin maghrébin, tout ça. Je trouve qu'il s'est beaucoup imposé ces dernières années, hein, parce que justement, et ça vient de ces jeunes qui, eux, voilà, c'est une forme d'identification, d'appartenance à un groupe.
Oui, voilà, ouais.
Ah, c'est
ouais,
ça.
C'est ça.
Mmh.
Puisque ces jeunes-là, qui ont 15-16 ans, la majorité, leurs parents parlent français à la maison avec eux.
Mais ça, je trouve que c'est plutôt positif, je trouve. Je sais pas toi comment, ce que
c'est
tu
positif,
penses, hein.
Mmh. Mais c'est positif, mais
une identité, ouais.
Voilà, doivent jouer le rôle de dire, voilà, nous, on parle français à la maison, il n'y a aucun souci, il n'y a pas un problème, mais on a une double culture, voilà, on est de telle et telle culture. Enfin, c'est aussi de... Pas de l'éducation, mais je veux dire aussi de la... je ne sais pas comment employer le terme, mais...
L'évolution, je dirais, l'évolution de la société. Parce que, regarde, Naïm, les générations passées, ils avaient du mal avec ça. S'ils parlaient l'arabe, comme tu le disais tout à l'heure à la maison, tu parlais arabe, ils parlaient l'arabe ou le kabyle à la maison, avec les parents. Les parents leur parlaient dans leur langue maternelle. Mais à l'extérieur, les jeunes de ma génération, les générations suivantes, eh bien, à l'extérieur, n'essayaient pas de parler avec des mots de leur langue maternelle. C'était même presque tabou, hein, je dirais. Voilà, moi, je me souviens pas qu'à l'extérieur, on n'osait pas dire des mots. Alors qu'aujourd'hui, ces jeunes, c'est pas qu'ils osent, ils s'imposent, et ils imposent leur langue maternelle à travers des bribes de mots, mais ils l'imposent. C'est comme s'il y avait un regain de...
C'est ça, d'identité.
Voilà, c'est ça.
Alors, on va prendre notre exemple. Est-ce que dans les années 80-90, dans les cités, dans les banlieues, on entendait parler de religion entre les jeunes? Jamais.
Pas du tout.
Par contre, il y avait une conscience politique. Je ne sais pas si vous avez le souvenir à l'époque.
Oui.
Les jeunes étaient engagés de gauche.
Ouais.
Les jeunes faisaient des mouvements. Il y avait une certaine... Il y avait une soif... de c'est liberté, pas. Une sorte de reconnaissance,
ouais.
Chose qui a été perdue maintenant. Tout le travail qui a été fait à l'époque, et ça, moi, j'en veux beaucoup aux jeunes de maintenant, tout le travail qui a été fait à l'époque a été complètement piétiné maintenant, parce qu'en fait, il n'y a plus aucune conscience politique.
C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est
donc
vrai.
Ça, le problème, c'est que aujourd'hui, si toutes les banlieues, toutes les cités auraient eu une conscience, même minime soit-elle politique, je vous promets que demain, il y a Mohamed à l'Élysée. On a une force, le savoir est une arme. On a une force, c'est le vote, par exemple. Eh bien, on l'utilise.
Ben, il ne vote pas. Non, il ne vote pas.
La majorité
ah ben, oui. Pas, non, il ne vote pas. Non, non.
C'est perdu. Et c'est, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, bien sûr, mais à l'époque...
Mais ils n'ont pas conscience de l'importance. Ils n'ont pas conscience.
Ouais. Est-ce que, un exemple, la marche 85, pardon, est-ce que maintenant c'est faisable? Infaisable, pas possible.
Ben ouais. Ben, les gilets jaunes, on n'a pas vu grand monde venu de ces quartiers. Hein. Par exemple.
Pourtant, les gilets jaunes, ils ont appelé les jeunes de quartier.
Parce que
au bout d'un moment, ils ont fait un appel à l'époque, je m'en rappelle. Ils ont fait avec ma femme, on était un peu sur le cul parce qu'ils ont fait un appel à BFM en disant, voilà, venez, on appelle tous les jeunes de banlieue à nous rejoindre. Mais pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'ils vous rejoignent? Pour les voir casser? Pour les inciter à casser et dire, voilà qui c'est? Non.
Ben,
c'est un mouvement...
Ils n'ont pas la même vision. Dans... Oui, c'est ça.
Voilà.
Ouais.
Ils n'ont jamais été intégrés dès le départ. Pourquoi les intégrer maintenant?
C'est ça.
Ont peut-être le courage que vous n'avez pas, vous. Enfin, il faut... Tout a été instrumentalisé, et c'est dommage parce que les jeunes n'ont pas de conscience politique ou très peu. Il y en a, ils en ont, bien sûr, on ne va pas cracher sur tout le monde, mais c'est dommage. Les associations qui travaillaient pour ça, etc., il y en a de moins en moins, et je trouve ça dommage quand même.
Oui, c'est vrai que c'est dommage, mais il faut vraiment chercher le cœur du problème pour trouver... un petit soupçon de solution, j'ai envie de dire, parce que c'est, enfin, je pense que c'est une histoire d'époque et que chaque époque est différente, que la jeunesse actuelle, eh bien,
c'est la génération, c'est la, hein,
voilà, c'est quoi, oui. Et aujourd'hui c'est une génération qui se sent pas concernée parce qu'elle revendique déjà ses origines, elle revendique et on le voit même à travers la religion. Tout à l'heure, tu disais, avant, ils n'en parlaient pas. Et je suis sûre que l'histoire, là, le fait religieux, etc., le regain par l'habit, tu vois, tout ce qui est visible, c'est juste, voilà. Parce qu'il y en a qui prennent vraiment ça très au sérieux. On le voit sur les plateaux télé, etc. On en fait vraiment des tonnes. Mais en réalité, ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris, vraiment. Parce que ces jeunes, c'est pas la religion par elle-même. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est une forme de revendication pour autre chose. C'est vrai qu'il y a une discrimination, que ce soit au travail, que ce soit... Et ces jeunes, ils ne se reconnaissent pas dans les revendications des gilets jaunes et autres.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je vais devoir vous laisser parce que je...
Merci en tout cas. Merci infiniment, Naïm, vraiment.
Il n'y a pas de souci, grand plaisir. Et puis à une autre prochaine.
Ben, j'espère bien, vraiment. Hein. Mais je salue ton épouse. Hein. Comment elle s'appelle?
Sonia.
Sonia, on t'embrasse très fort. On ne l'a pas entendu, Sonia. Hein.
Voilà, c'est l'amour de ma vie. Donc, toujours avec moi, à mes côtés. Et puis voilà. Quoi.
Génial. Ben, je vous souhaite en tous les cas plein de bonheur encore. Et pour jusqu'à au prochain siècle. Voilà.
Inch'Allah, merci beaucoup.
Je vous embrasse et revenez vite. Hein, et tu nous passes Sonia la prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Très sympathique, notre ami Naïm. Voilà. Eh bien, oui, il a raison. Hein. Vraiment, il a touché le cœur du problème de cette jeunesse qui a dit qu'ils sont assis entre deux chaises, pour reprendre un peu ce qu'il dit. Hein, ce qui, voilà. C'est vrai, ils se retrouvent pas, sont dépolitisés, mais est-ce que c'est pas voulu aussi, hein, quelque part, hein, par certains qui font tout pour que les jeunes... Mais il faut pas qu'ils tombent dans le piège, justement. C'est là où il faut s'accrocher. Il a raison, Naïm. C'est là où il faut voter. Il faut s'accrocher, il faut participer à la vie de la société. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils vont réussir. C'est comme ça qu'on va avancer. C'est important. C'est important pour exister. Ben oui, c'est pas en tournant le dos, en faisant le dos rond, je ne sais quoi. Et tu peux me passer l'appel ? Non ? On a qui ? On a Rabah. Bonsoir, Rabah.
Oh, bonsoir.
Alors, Rabah, on a bien papoté avec Naïm. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on s'est dit ? Tu es sur la jeunesse.
C'est sur la jeunesse.
La jeunesse actuelle. Enfin, on a parlé de la jeunesse de maintenant. Et en même temps, des générations passées, on a fait une espèce de synthèse de tout ça et de comparaison surtout. Même si on dit que comparaison n'est pas raison. Mais là, du coup, ça valait la peine.
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une réalité. Et puis,
pardon, là-bas ?
C'est une réalité.
Oui.
Maintenant, la religion est devenue reine.
Oui.
Ouais, je pense, dans les quartiers.
Oui.
Puis la politique, elle est mise à part. Et puis la gauche, bah, elle a démissionné. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? La gauche n'est plus là, les politiques ne sont plus là.
D'accord. Non, mais d'accord, on peut chacun son point de vue là-dessus. Mais ces jeunes, comment on fait pour les motiver ? On ne peut pas leur dire il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de droite. On ne peut pas. Au contraire, il faut les motiver. Il faut leur dire bon, ben justement puisqu'il n'y a plus ceci, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, ou il n'y a plus de je ne sais quoi, peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'organise de différent et de nouveau, parce qu'on est dans une autre époque. Gauche-droite ne veut plus rien dire aujourd'hui. Hein. Donc peut-être qu'il y a une place, il y a quelque chose, il y a une place à prendre, il y a quelque chose à combler. Et cette jeunesse, elle a toutes ses chances. Hein, on peut les motiver dans ce sens.
D'accord avec toi, on peut les motiver, ouais.
Qu'est-ce que pensent tes enfants, toi qui as des enfants de cette génération, 22 et 19 ans ? Qu'est-ce que... Vous parlez de politique, vous parlez de tout ça à la maison. Qu'est-ce qu'ils pensent, tes enfants ? Est-ce qu'ils votent déjà ?
Non, franchement, on parle pas de politique.
Est-ce qu'ils votent, tes enfants ? Ben voilà, vous parlez pas. C'est à vous, les parents, d'en parler, de motiver les enfants. On parle pas.
Non, je vote pas.
Toi, tu votes pas non plus ? Ben voilà. Voilà le mauvais exemple.
Je vote pas. Si, au
ministère. Ben voilà, comment tu veux qu'on avance ? Il a raison, hein ? Naïm. Ah, il a raison, Naïm. Mais oui, il a raison, mais tu votes pas. Tu es un très mauvais exemple pour tes enfants, là-bas. Hum ?
Je dis pas que...
Et pourquoi tu ne votes pas ? C'est ça, voilà.
Je vote au municipal.
Alors donc, regarde, t'as vu ce que tu as dit ? Il n'y a plus de gauche. Non mais attends, je comprends que ton cœur est à gauche, c'est ce que je comprends. Mais tu dis, il n'y a plus de gauche. Mais il n'y a plus de gauche à cause de gens comme toi. Ben, tu votes pas. Alors donc, dans les urnes, des gens comme toi ne pèsent pas. Vous n'existez pas dans le paysage, en tous les cas. Ben oui. On a la chance de vivre dans un pays démocratique, où on nous donne le droit de choisir. C'est ça, le droit de choisir. C'est pas en parlant, en blablatant, en disant il n'y a plus de gauche et tout. C'est pas ça. La démocratie, c'est le vote.
Ouais, mais quand tu vois comment ça se passe.
Ben, ça se passe quoi ? Tu votes ?
Et européen ? En fait, c'est l'Europe qui gère.
Non. Non. L'Europe, ça n'a rien à voir.
Ouais.
Ça n'a rien à voir. Non. Dans un pays. Tout ce qui concerne, en tous les cas, les décisions concernant le pays, hein, vraiment les grandes décisions, c'est les élections nationales. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Après le reste, tout ce qui est international, c'est l'Europe. Allez, ok. Mais ce qui concerne la France, c'est la France. Quand on est élu, pardon.
L'Europe exige quelque chose pour marcher dans le même sens. En fait, on va dans un autre sens. En fait,
Mais t'es dans les clichés. T'es dans les clichés.
Hein,
t'es dans les clichés. Moi, je vote. T'es dans les clichés. Je suis désolé.
Je votais.
Ben oui, grâce à certains, on n'est pas tombé dans les extrêmes. Peu importe lesquels extrêmes, mais on n'est pas tombé. Grâce à ceux qui votent.
Mais.
Voilà.
Mais,
bah ouais.
Moi, je vote plus.
Bah ouais, bah tu vas subir.
Je sais
et tu vas nous faire subir. Ben, grâce à cause de... Non, mais tu sais, des gens comme toi, vous n'avez pas le droit de vous plaindre.
Par exemple, il a eu un texte. Moi, j'ai fait partie des Gilets jaunes, hein, au départ. Parce que, contrairement à ce qu'il a dit, par rapport aux Gilets jaunes, c'est ouais, que ça concernait tout le monde.
Tu participes aux Gilets jaunes et tu ne votes pas.
Je sais, ouais.
Mais et tu ne votes pas, mais c'est...
J'étais au départ.
C'est la tchouk-tchouka chez toi.
Ouais, non, j'étais au départ.
Mais attends, avant de participer aux Gilets jaunes, il faut que d'abord que tu votes.
Le premier jour, le 17.
Avant de revendiquer, il faut que tu votes.
Non, c'est pas que je revendique.
Ah si, les Gilets jaunes, c'est, une... c'est des revendications.
Alors, on est indépendant, on est dans le sens où on cherchait... À revendiquer quelque chose et rassembler tout le monde. Mais je pense que les gens, ils n'ont rien compris.
Ouais, comme toi, qui ne votent pas.
Non, c'est pas ça. C'est pourquoi je ne vote plus. Je vote plus. Ça y est, c'est fini, je vote plus. Ah ouais. Mais je vote au niveau municipal, ça, c'est pas un problème.
Ouais, mais ne venez pas parler de discrimination. Si demain, on a des extrêmes au pouvoir, ne venez pas pleurer.
On a toujours été discriminés, Vanessa.
Pas du tout. Arrêtez de jouer les victimes. Non, mais il faut arrêter les victimes. Non, attends. Il y a certains bords qui discriminent. Mais l'État français ne discrimine pas. Tu n'as pas le droit de dire ça.
Non, quand tu vas chercher un travail, tu t'appelles.
Tu
peux avoir une peau blanche, une peau.
Oui, ils font. Non, mais non, attends.
Quand tu arrives d'un quartier.
Ça dépend.
À Sartrouville, par exemple. Tu arrives de la Cité des Indes. Oula, tu cherches un boulot dans la restauration. Oula, c'est pas normal.
Dans la restauration, alors là, il y a que... Justement, t'as même des sans-papiers dans les restaurants.
Non,
tu dis n'importe quoi. À l'époque, mais on est en 2023. Tu me parles des années 90. On est en 2023.
Je te raconte une histoire.
Bah ouais, on est en 2023.
T'as même des endroits où on me disait, ah, tu changes ton prénom.
Mais non, dans les hôpitaux, t'as des médecins maghrébins, t'as des médecins africains. Dans les hôpitaux, aujourd'hui, on n'est plus en 90.
Oui, c'est vrai.
On a terminé pour ce soir. Je suis désolée, je t'embrasse, Rabah. Reviens lundi et réfléchis à ça. Votez. Allez, merci Anthony.
Merci à toi, bonne nuit, bon week-end tout le monde.
Merci à toi aussi. Très bonne nuit à vous, chers amis. Faites de beaux rêves et continuez à écouter les programmes de Beurre FM pour les insomniaques et ceux qui travaillent de nuit.
Riches et variés.
Voilà, riches et variés, absolument. Là, c'est Rayantologie. Je peux vous assurer, il n'y a que chez nous qu'on trouve Rayantologie. C'est vraiment magnifique. Et puis d'autres émissions aussi, des rediffs, etc. Et demain, samedi, dimanche, de très belles émissions du week-end pour vous. Moi, je vous donne rendez-vous lundi, ok? Lundi, dès 11h pour vos petites annonces. Allez, bon week-end, je vous aime, bye!
Retrouvez Confidence tous les jours de 21h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.